Le philosophe tel que nous l'entendons, nous autres esprits libres, comme l'homme dont la responsabilité s'étend le plus loin, dont la conscience embrasse le développement complet de l'humanité, ce philosophe se servira des religions pour son œuvre de discipline et d'éducation, de même qu'il se servira des conditions fortuites de la politique et de l'économie de son temps. L'influence sélectrice et éducatrice, c'est-à-dire tout autant celle qui détruit que celle qui crée et modèle. L'influence susceptible d'être exercée au moyen de la religion est diverse et multiple selon l'espèce d'homme qu'on lui confie. Pour les hommes forts et indépendants, préparés et prédestinés au commandement, où s'incarne l'esprit et l'art d'une race dominante, la religion est un moyen de plus pour surmonter les résistances et pour dominer. Elle est un lien qui unit maître et sujet, qui révèle et livre au maître la conscience des sujets, ce que cette conscience a de plus intime et de plus caché, et qui précisément voudrait se dérober à l'obéissance. Dans le cas où certaines natures d'origine noble inclineraient, par une haute spiritualité, vers une existence plus retirée, plus contemplative, et ne se réserveraient que le côté délicat du gouvernement, exercé sur des disciples choisis ou les membres d'une même communauté, la religion peut même être utilisée comme moyen de trouver le calme, loin du bruit et des vicissitudes qu'entraîne le gouvernement plus grossier, de se laver les mains de la malpropreté inhérente à toute action politique. C'est ainsi que l'entendaient, par exemple, les brahmanes. Grâce à leur organisation religieuse, ils se donnèrent le pouvoir de nommer ses rois au peuple, tandis qu'eux-mêmes se tenaient à l'écart, ayant le sentiment de la distance et des devoirs supérieurs aux devoirs royaux. La religion sert aussi de guide à une partie des sujets et leur donne l'occasion de se préparer à dominer et à commander un jour. Ce sont ces classes plus fortes qui se développent lentement, chez qui, grâce à des mœurs favorables, la force de volonté et le caractère s'accentuent sans cesse. La religion leur offre des séductions assez grandes pour suivre les voies de la spiritualité supérieure, pour éprouver les sentiments de la victoire sur soi-même, du silence et de la solitude. L'ascétisme et le spiritualisme sont des moyens d'éducation et d'anoblissement presque indispensables lorsqu'une race veut se rendre maître de ses origines plébéiennes et s'élever jusqu'à la souveraineté future. Aux hommes ordinaires, enfin, au plus grand nombre, à ceux qui sont là pour servir, pour être utiles à la chose publique et qui n'ont le droit d'exister que s'ils se soumettent à ces conditions, la religion procure un inappréciable contentement, leur fait accepter leur situation, leur donne le bonheur et la paix du cœur, anoblit leur servitude, leur fait aimer leurs semblables. C'est pour eux une sorte de transformation, d'embellissement et de justification de la vie quotidienne, de toute la bassesse, de toute la pauvreté presque bestiale de leur âme. La religion et l'importance religieuse de la vie jettent un éclat ensoleillé sur de pareils êtres, tourmentés sans cesse. Elle rend supportable à leurs yeux leur propre aspect. Elle agit comme une philosophie épicurienne agit généralement sur les souffrances d'une classe plus haute, fortifiant, affinant, utilisant même la souffrance pour la justifier et la sanctifier. Peut-être n'y a-t-il rien d'aussi digne de respect, dans le christianisme et le bouddhisme, que l'art d'apprendre aux petits à s'élever par la piété dans l'apparence d'un ordre supérieur. À se contenter ainsi de l'ordre véritable où ils vivent, assez durement il est vrai, mais il importe de conserver cette dureté.